enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le siècle que nous vivons, que les pays que, en principe, ont appliqué les exigences bibliques, même s'ils ne croyaient pas, quand même, dans le système d'éducation, la loi, ils mettent en pratique les principes bibliques. Vous savez que la civilisation a toujours prospéré, a toujours pris l'avance dans la science, la médecine, sur le côté de l'économie, parce qu'ils ont appliqué les principes bibliques. Mais aussitôt qu'on néglige les principes bibliques, on peut seulement s'écrouler. Et grande est la ruine. On a parlé que le mariage était bien ordonné de Dieu, qu'on peut être un groupe de chrétiens qui est sous le même toit, mais quand même, ça ne veut pas dire que nous sommes un foyer chrétien si les chrétiens n'appliquent pas les principes bibliques. Deuxième point, on a parlé sur la responsabilité de l'époux chrétien et comme quoi qu'il s'engage à aimer sa femme et c'est un amour sacrificatoire. Là, pour la troisième session, on continue toujours dans les Saintes Écritures. Si vous voulez regarder avec moi, concernant la responsabilité de l'épouse chrétienne dans Éphésiens, le 5e chapitre, versets 22 à 24. Éphésiens, le 5e chapitre, 22 à 24. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le Seigneur, Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Hier, on a parlé de la responsabilité du mari étant d'aimer sa femme et on a expliquer que le mot « aimer » était mal compris dans notre société, mais on a appliqué les principes de la Bible concernant l'amour. Et là, ce matin, je vais parler sur le mot « soumission ». Les femmes, en général, n'acceptent pas, ici dans notre société d'aujourd'hui surtout, le mot « soumission ». Mais comme le mot « amour » a été mal interprété, je vais vous expliquer ce matin que le mot « soumission » est aussi mal vu et mal interprété. Je dois admettre, puis je le dis sincèrement du cœur, que je crois que les exigences sur la femme concernant le mariage est beaucoup plus difficile que le mari. Premièrement, en général, c'est facile à aimer une femme. Et que le mari a déjà la tâche facile quand on dit « mari, aimez vos femmes ». Vous êtes facile à aimer, généralement. Normalement. Presque tout le temps. Mais quand même, dire « se soumettre », c'est extrêmement plus difficile parce que là, tout notre futur, notre vie, notre bien-être dépend sur l'agissement d'un autre. Le mari, lui, tout son futur, son bien-être dépend de son agissement à lui. Mais la femme, elle, c'est beaucoup plus difficile parce que son bien-être dépend de l'agissement d'un autre. Et la société aujourd'hui nous enseigne que le mariage est un contrat entre deux individus. Un genre de partnership, qu'on dit en anglais, partenaire. Un arrangement. Même plus que cela, on vous demande, les femmes, de garder votre propre nom. C'est Madeleine un tel, c'est Jean un tel. Samuel un tel, Marianne un tel, que vous devriez garder votre nom de fille. Pourquoi? Parce qu'on enseigne que vous gardez votre individualité même pendant le mariage. Comme je vous ai dit, ici à l'Église évangélique de la Rive-Nord, et que ce qui me concerne, j'enseigne jamais concernant la culture et la mode des temps, mais seulement que ce que la Bible dit. Et la Bible dit que le mariage n'est pas un partnership. Le mariage n'est pas un arrangement entre deux individus qui demeurent deux individus. Ça dit que nous perdons notre individualité, le mari aussi bien que la femme, et les deux deviennent une seule chair, un seul corps. Que l'homme se livre et il vit pour sa femme, et sa femme vit pour lui. C'est le contraire à ce que la société enseigne aujourd'hui, et c'est pour cela qu'on a tellement de divorces et tellement de mariages qui se brisent, parce qu'ils ne comprennent pas le vrai contexte du mariage, que quand je m'engage devant Dieu et à l'autel de t'aimer, de vivre pour toi, de te chérir, c'est là qu'on est appris à faire justement l'échange, à dire « je me donne complètement à toi et je vis pour toi ». Et l'autre ici, le mari, dit la même chose pour la femme, et la femme pour le mari. Et la première responsabilité de la femme, c'est qu'elle doit réaliser qu'elle vient dans un seul corps, et puis pour devenir une aide à son mari. Dieu a dit, lorsqu'il a créé Adam, « Je vais lui faire une aide semblable à lui. » Première responsabilité, c'est devenir un aide. Et la raison, la seule façon qu'elle peut devenir un aide, parce que réaliser que la femme vient du côté de l'homme, elle fait partie de son corps, elle est chair de sa chair, les os de ses os, et puis c'est ça que ça veut dire lorsqu'on se marie ensemble, qu'on devient comme un seul corps, travailler ensemble comme un, complètement et entièrement. Et puis, si on dit « je lui ferai une aide », il faut réaliser qu'une aide a un chef. Un chef a une mission. Et tout simplement que si les deux deviennent un seul corps, c'est qu'il faut qu'un corps ait une tête. Un corps à deux têtes, c'est un monstre. Vous d'accord? Un corps à deux têtes, c'est un monstre, et c'est pour cela qu'on a beaucoup de mariages monstrueux aujourd'hui. Ouais. Mais je veux que vous réalisiez que quand on parle du mot « soumission », ça ne veut pas dire ça que la femme devient esclave, mais que la femme marche à côté de son mari, elle vient de sa côte, et qu'ensemble, ils travaillent pour accomplir la mission que le Seigneur aurait pour lui dans la vie. Et soumission veut simplement dire que le Seigneur va avoir une mission, et la femme se met sous la même mission que son mari, pour lui aider à accomplir la mission que Dieu a pour lui. Ça ne veut pas dire esclavage. Ça ne veut pas dire esclave. Faut penser à un couple qui assistait à un de ces séminaires que nous parlons présentement, où ce que la femme avait toujours l'autorité dans la maison, c'est elle qui était le boss, c'est elle qui était en charge, c'est elle qui était le chef, puis avait un petit bout de mari que lui, ça trouve oui, non, il avait toujours le dernier mot, puis c'était oui, chérie. Et puis assister à un des séminaires. Puis là, tout à coup, il a réalisé et reconnu que c'est lui qui est en charge, c'est lui qui est le chef. Là, il a pris ça comme dire là, que c'est lui qui est le boss, là, puis il est obligé de se soumettre à lui. Fait que lorsqu'ils sont arrivés à la maison, il lui a dit « Je t'avertis » en sortant du char, puis il a fait claquer la porte. Là, il dit, c'est moi qui est le boss. T'as entendu le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi qui est le boss, c'est moi qui est en charge. Puis si tu vas passer par là, tu compris? Là, tu vas m'écouter à cette heure-là. C'est moi qui est le boss. La Bible le dit bien. Et puis, arrivé pour rentrer à la maison, la femme arrive passer le premier. « Hey, toi, d'être là, c'est moi qui le bosse. Je passe le premier. Puis, si tu penses, tu ne m'écouteras pas, c'est ça qui va t'arriver. » Puis, il donne une bonne claque à part de ça. C'est moi qui est le boss. Il n'a pas revu sa femme pendant 2 semaines, jusqu'à temps qu'il puisse ouvrir ses yeux noirs au beurre noir à l'hôpital. Aidez. Je veux que vous sachiez, les femmes, que l'homme a de la difficulté de vivre sans femme. L'homme a beaucoup plus de difficultés à passer en travail de la vie célibataire, beaucoup plus qu'une femme. Une femme peut s'ajuster et vivre seule, mais un homme a beaucoup plus de difficultés à vivre seul. Lui a besoin d'une aide. On ne peut pas se dispenser de les femmes. Et si elle est notre aide, les hommes, je veux que vous appreniez quelque chose ici. Elle va être envoyée de Dieu dans le but de nous aider à changer et à s'améliorer. Qu'on n'aime pas ça. Si on dirait que c'est la première tâche que Dieu a donnée à la femme, c'est d'aider à son mari à changer un peu, à s'améliorer, à créer de la maturité dans sa vie. Vous savez qu'il n'y a rien comme une femme pour faire un homme de nous. Si vous ne croyez pas cela, quand vous êtes célibataire, essayez d'avoir un emprunt à la banque. Essayez de gagner le respect des gens de la même façon que lorsque vous êtes marié, vous allez voir qu'il n'y a pas le même niveau de respect et de confiance. Si tu es célibataire et tu vas aller prêter à la banque va te dire, va te chercher un signataire, va te chercher quelqu'un. On n'a point confiance en toi quand tu es célibataire. Mais quand tu es marié, la banque le sait que ta femme va y voir que tu as rempli tes obligations. C'est vrai? Tes assurances coûtent moins cher comme conducteur, si tu es marié et que lorsque tu es célibataire. Les assurances le savent que tu vas être plus mature. Elle prend toutes des notes, là. Elle aime ça. Là. Ouais. Parce que Dieu a envoyé la femme à nos côtés pour nous aider, premièrement, à changer. Et quand on essaie de nous changer, elle va nous narguer, et puis là, on n'aime pas cela. Elle va nous dire où est-ce que nous avons nos faiblesses. On n'aime pas se faire dire nos vérités. Et c'est là que la chicane commence. On ne réalise pas que le Seigneur l'a placé là pour nous aider à améliorer notre sort. On n'aime pas le prendre. À cette heure, à l'avenir, lorsque votre femme va vous corriger, vous allez dire, je te remercie, chérie, que tu m'aimes assez pour me corriger. Je te remercie pour la correction que tu me donnes. Combien l'ont fait dans le passé? Le Seigneur t'a envoyé justement, je dis, merci Seigneur pour m'envoyer ma femme, pour m'avoir corrigé comme corrige. La grande souffrance de l'homme, c'est de se faire reprendre par sa femme. Tu sais que quand Satan a voulu tenter Job, il a enlevé tout son argent, il a enlevé toutes ses propriétés, il a enlevé toutes ses batailles, il a enlevé tous ses enfants, mais il a laissé garder sa femme. Il savait comment le faire souffrir. Il y a des vérités là-dedans. J'ai dit qu'il y a beaucoup de vérités dans la Bible. Ouais. Et puis les femmes, d'une autre façon, il faut réaliser que si vous voulez réellement que votre mari prenne sa position comme étant le chef aussi, faites-lui reconnaître qu'il l'est. Vous devriez lui aider à monter, à l'influencer, puis à l'encourager à monter au niveau de responsabilité qui devrait être dans le foyer. Et ça dit, dans le verset 24, que les femmes doivent se soumettre à leur mari en toutes choses. Ça, c'est pas facile, parce que la majorité des femmes vont dire, « Est-ce que je devrais me soumettre à mon mari quand même il n'a pas raison? » Il y en a qui sont pas sûrs. Mais ça ne dit pas de vous soumettre à votre mari seulement quand il a raison. Ça dit en toutes choses. En toutes choses. Pour ça, là, lorsque vous allez avoir des filles qui vont être à l'âge de se marier, assoyez-vous avec eux et dis-leur, écoute, tu vas être obligé de te soumettre à ton mari en toutes choses. Tu es mieux de faire attention à qui tu maries. Hein? Parce qui va décider qui est la bonne ou la mauvaise chose? Pour ça que c'est important que j'ai dit que la femme, elle, pour se sentir en sécurité, il faut absolument qu'elle réalise que son mari n'est pas égoïste, qu'il cherche bien la face de Dieu pour faire la volonté de Dieu, et là, elle va se soumettre à lui comme au Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait peur à la femme, c'est quand elle avoue que le mari est égoïste ou qu'il va prendre des décisions, ça peut être économique comme d'autres choses, seulement agissant dans une façon égoïste. Et non pas pour le bien-être de la famille, est obligé de se soumettre à ça quand même. Mais vous dites pourquoi vous êtes obligé de se soumettre à ça, c'est parce que le Seigneur vous demande de vous soumettre. Et quand vous vous mettez sous soumission de votre mari, même s'il fait erreur, au moins si vous vous soumettez quand même, vous le faites non pas pour votre mari, mais vous le faites comme au Seigneur. Comme au Seigneur. En voulant dire, là, dans votre pensée, si vous voulez un peu justifier votre action, vous pouvez au moins penser et dire, mon mari, je me soumets à toi, mais je veux que tu saches, ce n'est pas réellement à toi, je me soumets à ton Seigneur. Parce qu'il dit, soumets-toi à ton mari comme au Seigneur. Si vous vous soumettez à lui, comme au Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Vous pouvez prier pour lui. Et le Seigneur va agir pour vous à votre égard. Parce que le Seigneur a dit, la vengeance m'appartient au Seigneur. Le Seigneur a dit, la vengeance m'appartient. Il va s'arranger avec votre mari. S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, il va s'arranger avec lui. Mais si vous prenez la situation en main, puis c'est vous qui commencez à forcer la situation, à augmenter, à vous obstiner, à chicaner, à narguer, et puis à tempêter, le Seigneur, dans ce temps-là, il dit, « Ah, tu veux t'arranger avec ton mari? Ben, arrange-toi tout seul. » Mais si vous vous soumettez, puis vous mettez dans un coin, puis vous priez, puis que vous agissez avec soumission, l'Esprit-Saint va travailler sur votre mari, puis je vais vous dire que ce ne sera pas facile pour lui. Il faut avoir confiance au Seigneur aussi. S'il a ordonné ce plan-là, c'est parce qu'il sait que ça peut fonctionner si tout le monde veut se soumettre au Seigneur et dans son plan divin. On va passer à l'histoire de la femme qui venait nouvellement d'être sauvée, était mariée à un avocat, elle, un pasteur qui racontait ça, elle était nouvellement sauvée, convertie, et ça se donnait que le dimanche au matin, le pasteur avait prêché sur l'alcooliste, son mari n'était pas sauvé à cause, mais elle l'était, et puis le malin de la boisson. Fait qu'en arrivant chez eux, après l'assemblée, elle prend toutes les bouteilles de bière dans le frigidaire, les bouteilles de bière qu'elle prenait à son mari, puis elle jette tout ça au vidange. Et puis, à la prochaine assemblée, elle vient voir le pasteur et elle dit, hey, « Pasteur, ce que j'ai fait, j'ai pris votre sermon à cœur, j'ai pris toute la bière de mon mari, j'ai tout jeté au vidange. » Et il dit, « Tu n'avais pas d'affaire à faire ça. » Il dit, « C'est pas ta bière, c'est sa bière. Toi, tu es sauvé, lui, il n'est pas sauvé, il ne comprend pas. » Fait qu'il dit, « Tu vas retourner à la maison, tu vas y acheter une caisse de bière, tu vas y remettre dans le frigidaire et tu vas lui demander pardon. » Pas facile. Fait qu'elle s'est soumise. Elle est allée acheter une caisse de bière, elle l'a mis dans le frigidaire, elle est allée voir son mari, puis elle lui a demandé pardon. Le mari, il dit, « Moi, un pasteur qui va donner un conseil comme ça, je vais aller le rencontrer. » Fait qu'il est venu à l'église. Il a accepté le Seigneur, il est né de nouveau, il a tourné chez eux, puis il a acheté sa bière lui-même. Comprenez-vous ce que je veux en dire? Le Seigneur va travailler pour vous. Et la soumission est facile pourvu qu'on réalise que le grand boss en arrière de ça est le Seigneur et qu'il contrôle tous. Il y a une femme même qui a passé un temps aussi, on peut être persécuté, les gens peuvent nous rendre la vie difficile. Et je sais que ce n'est pas facile pour la femme dans beaucoup de situations à vivre avec certains maris, mais quand même, il faut le faire. parce que le Seigneur le demande de le faire. Mais ne jamais prendre la situation en main. 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 4. J'aimerais qu'on lise ensemble, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 3, 1 à 4. Qui parle ici de la façon que la femme doit agir. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Voyez-vous, sans parole, j'aime ce qu'il dit ici. En voulant dire, il n'est pas gagné par la parole, en voulant dire le narguer, puis le pousser, puis les choses de ce genre et l'influencer de cette façon-là, mais il dit ici plutôt, c'est pas par la parole qu'il va être gagné, mais ça va être plutôt par votre conduite. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu, qui est un grand prix devant Dieu. Et je crois que c'est ça qui se trouve être l'exigence de Dieu concernant la femme, la responsabilité de l'épouse dans le mariage, d'avoir un esprit doux et paisible. Pour ça que je dis à tous les jeunes hommes dans l'Église, là, et puis les jeunes gens qui cherchent une blonde, une amie, plus tard, cherchent une femme en voulant dire, il dit là, aussitôt que tu vois la belle blonde ou la belle noire ou quoi que ce soit, va la voir. Et la même chose, tu vas lui demander, as-tu un esprit doux et paisible? Parce que l'apôtre Pierre, il dit, c'est pas seulement l'apparence et les parures et les ornements qui comptent, mais c'est surtout un bon esprit douce et paisible. Deuxième responsabilité, première c'est l'aide, deuxième responsabilité, et puis ça, c'est un autre aussi point qui est extrêmement mal compris dans notre société. C'est d'être une bonne ménagère. Si jamais vous avez l'opportunité, les dames, on va prendre le temps de le lire ce matin, parce que je crois que c'est trop important. On va garder ensemble la responsabilité de l'épouse dans Proverbes, le 31e chapitre, verset 10 à 31. Proverbes 31, 10 à 31. Vous allez voir que c'est toute une responsabilité, selon le plan biblique, d'être une épouse et mère de famille. Proverbes 31, c'est dans le centre de votre Bible. Commençant au verset 10. « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la guenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle le revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Fait que nous voyons ici l'importance du ministère de mère de famille, d'épouse, d'une ménagère. Une des plus grandes pensées séduisantes de Satan vers la destruction de la famille, c'est d'abaisser le rôle d'une maman ou d'une ménagère dans le foyer. Il y a bien des gens qui vont vous dire aujourd'hui, « Sors donc du foyer, fais-toi valoir, va travailler à l'extérieur. » Là, je ne veux pas juger les femmes qui sont obligées de sortir pour travailler, mais je veux que vous sachiez que je crois de tout mon cœur qu'on est mieux des fois de sacrifier sur des biens matériaux dans le but de mettre en évidence et aussi d'exercer avec succès notre ministère de ménagère. Comme j'ai mentionné que le père est le chef ou la tête du foyer, je crois que la mère est aussi importante, elle est le cœur du foyer. Il faut réaliser cela, qu'elle est le noyau du foyer. Puis je vais dire des choses qui vont peut-être vous choquer un peu ici, mais je crois de tout mon cœur que si chaque femme prendra son rôle d'épouse et de mère de famille avec autant de consécration et de rencontrer les exigences bibliques qu'on vient de lire ici, vous allez voir que c'est toute une carrière et une carrière extrêmement importante. Assez importante que je dirais que si toutes les mères qui travaillent présentement, qu'ils ont des enfants et qu'ils ont un mari, retourneraient dans leur foyer, je vous garantirai qu'il y aura beaucoup moins de délinquants juvéniles, beaucoup moins de jeunes gens à la prison, beaucoup moins de maris qui sortiraient avec d'autres, il y aura beaucoup moins de divorces et beaucoup moins de difficultés dans la société, car le rôle de la ménagère est extrêmement important, car c'est le cœur du foyer, et lorsqu'on enlève la mère du foyer, ça devient un foyer sans cœur. C'est sévère, mais je le maintiens que si nous voulons réellement aider l'économie de ce pays, c'est de passer une loi que toutes les femmes, dont que le mari gagne un salaire, retournent à la maison. Ça va aider l'économie, ça va aider tous les aspects de notre vie et surtout, ça va aider les familles et les enfants. Je crois qu'il n'y a rien de plus pitoyeux lorsque les petits-enfants arrivent de l'école à 4 heures l'après-midi et ils ont une clé accrochée dans le cou, ils sont obligés de débarrer la porte et puis essayer de se faire la manger eux-mêmes parce que la maman travaille du surtemps et les choses de genre là, car il dit « Sors de ton foyer, fais-toi valoir, que je veux que vous sachiez que la plus grande valeur qu'il peut y avoir, c'est le ministère de ménagère. » C'est un ministère. Voyez-vous, le Seigneur ne voit pas les choses de la même façon que la société à l'extérieur. La société à l'extérieur doit dire que la chose la plus basse qui peut exister, c'est de servir. Mais le Seigneur dit que celui qui veut être le plus grand, le plus respecté parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Et si vous voulez l'analyser bien attentivement, vous allez voir que généralement, la personne la plus respectée aux yeux d'un homme, c'est sa mère. Et plus que sa mère a été servante, d'une façon de parler, puis je me sers de ce terme-là, et qu'a été bonne ménagère, plus que cette personne-là va avoir du respect à sa mère, et puis c'est comme ça que le Seigneur le veut. Si tu es serviteur de tous, tu vas être le plus élevé de tous. Et la mère d'un homme est extrêmement, bien, beaucoup respectée. On aime notre mère. Elle devrait l'être bien respectée, car elle a consacré sa vie à faire du bien pour le foyer et pour la maison et pour ses enfants. Elle travaille d'une main joyeuse, premièrement. Pas encore le lundi matin, pas encore le lavage, pas encore ça à faire et d'autres choses à faire et qu'on passe notre journée peut-être à critiquer les tâches que nous avons à faire dans le foyer, mais je veux que vous sachiez que ça, c'est seulement la société qui nous fait comparaître avec les activités de l'extérieur, et puis on aime toujours recevoir à l'extérieur au lieu de rencontrer nos obligations. Si on fait tout pour le Seigneur et parce qu'on aime notre famille, on peut faire et rencontrer nos obligations. Deuxièmement, ça dit dans Proverbes, verset 14, chapitre 31, qu'elle soit bonne cuisinière. Car ça nous dit qu'en amenant les pains de loin, la meilleure nourriture exquisite, si vous voulez. Et verset 15 dit qu'elle est veillante. Elle se lève de bonne heure. Vous allez dire, bien oui, mais ça dit qu'en mettant, elle se servait de ses servants dans ce temps-là, ou ses servantes. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, toutes nos femmes ont des servantes. Des laveuses électriques, automatiques, puis des sécheuses automatiques, puis... On a beaucoup d'acmodités aujourd'hui qui remplacent les domestiques de l'ancien temps. Et ça veut dire ça qui sont nos servantes aussi. Et j'aimerais seulement apporter à votre attention que le rôle de ménagère et de mère d'une famille n'est pas facile. C'est un rôle tout à fait spécial. Mais je crois qu'il n'y a rien qui doit aider la société autant qu'une maman qui reste à la maison pour prendre soin des enfants, surtout quand ils sont petits puis ils grandissent. Janice, qui est ici, je réfère toujours à ma famille. Et les enfants qui souffraient parce que leurs parents n'étaient pas à la maison quand ils arrivaient après l'école, puis avaient fait une composition que la chose qu'on appréciait le plus, c'est lorsqu'on arrivait à la maison après l'école et puis qu'il y avait des biscuits, un verre de lait, ou sa mère qui l'attendait pour elle et puis qui l'accueillait. C'est bien, bien important. On est bien mieux d'avoir une télévision, pas de télévision, une auto, pas d'auto. On est mieux peut-être de sacrifier beaucoup de les côtés matériaux, mais de vivre une vie en paix et avoir un bon foyer paisible. Parce que vous le savez que ce n'est pas facile pour la femme lorsqu'elle est obligée de travailler toute la journée, prendre soin d'un foyer, elle vient au bout de nerfs, elle vient fatiguée, puis le mari a ses exigences, lui avec, et puis lui est fatigué, puis si on demande à lui d'aider sur le côté de la maison, lui avec aussi, il ne peut rencontrer toutes ses obligations, et là la chicane commence, sont irrités, et puis il y a beaucoup de divorces. Et je peux vous dire qu'une des causes du divorce aussi, c'est que les gens sont sur le marché de travail, les femmes surtout. Troisième responsabilité, c'est d'avoir une belle apparence. C'est important ça. Quand je parle d'une belle apparence, je ne veux pas dire encore de grimer jusqu'aux oreilles et puis comme l'apôtre Pierre a mentionné, toutes sortes d'ornements, puis qu'il faut que la femme soit au salon de coiffure à tous les jours. Mais j'ai mentionné hier, j'ai parlé concernant les hommes et leur apparence et de ne pas prendre leur femme pour acquis. Et c'est la même chose concernant les femmes. Prenez pas votre mari pour acquis. Tout homme le sait que la journée... Ou ce que, après le mariage, la première fois qu'il voit sa femme apparaître dans le cadrage de porte, en robe de chambre, en pantoufles, les curlers dans la tête, le cold cream dans le visage, là, il dit la lune de miel vient de finir. Et puis, vous savez que si le mari part le matin et il voit sa femme dans cette condition-là, puis il revient le soir et peut être encore dans la même condition. Après une secousse, croyez-moi. Après un certain temps, il commence à trouver les secrétaires au bureau belles. Allô? Voyez-vous, on a une mauvaise conception de l'humilité, nous autres, souvent les chrétiens. On pense, nous autres, que l'humilité, c'est d'avoir l'air de la vache à Jacques. D'être mal attraqué. Ça se dit pas. Ben, je sais, ma femme, ma mère me disait ça souvent. Hein? La chienne à joke. Vois-tu, les familles sont pas pareilles. Lui, c'était une chienne à joke, moi, c'était une vache à joke. Voyez-vous? Ça dit dans la Bible qu'on devrait glorifier Dieu dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Et une des façons qu'on doit glorifier Dieu dans notre corps, c'est toujours d'avoir une bonne présentation. Et je crois qu'on le doit à nos maris de se lever assez de bonne heure pour s'arranger un peu, puis lorsque vous allez, il va partir le matin, il va avoir une femme qui va, lorsqu'il va la regarder en partant, il va avoir hâte de revenir à la maison pour la revoir. Parce que la Bible nous enseigne ceci. C'est que comme chrétiens, nous sommes le temple de l'Esprit-Saint et non pas la chatte de l'Esprit-Saint. Un temple, c'est toujours quelque chose de beau. Quand tu vas, tu mets l'image d'un temple dans ta tête, c'est toujours quelque chose qui a une belle apparence. Un garage n'est pas obligé d'avoir une belle apparence. Mais ça ne nous dit pas que nous sommes le garage de l'Esprit-Saint, nous sommes un temple de l'Esprit-Saint. Et je crois qu'on se le doit de faire les exercices et de faire attention à notre diète. Ce n'est pas facile que je vous demande de faire, mais si vous voulez conserver votre mariage et commencer à glorifier Dieu dans toutes vos entreprises, on est mieux de commencer à sacrifier. On est trop gâtés dans cette société. On s'en fiche de tout, on prend tout pour acquis. C'est dur de faire fonctionner un mariage. Ça prend de la difficulté, ça prend du sacrifice, ça prend du vouloir. On va avoir du succès sans aucun effort, mais ça n'existe pas cela, même dans le plan de Dieu. Il va toujours nous donner sa grâce, mais on devrait toujours faire notre possible pour toujours rendre notre mari heureux ou notre femme heureuse. Une bonne apparence. Pensez au type qui, là, c'est le premier soir de sa lune de miel, il se prépare à se coucher, puis là, sa femme enlève sa perruque, elle la met dans le tiroir. Enlève ses soucis, elle les met dans le tiroir. Enlève toutes ses ongles, elle les met dans le tiroir. Enlève son dentier, elle les met dans le tiroir. Il demande, dis-tu donc, couches-tu dans le tiroir ou tu couches avec moi? Le mari dit à sa femme, il dit, tes dents sont comme des étoiles, ils sortent la nuit. On rit, mais il y a un message là-dedans, je pense, hein? Car ça dit ici, dans le verset 28 et 30, que si on met l'effort d'appliquer les principes bibliques de Proverbes, le 31e chapitre, qu'on va y avoir des bons résultats. Le mari l'a louangé. Il l'a respecté. Il dit, « Tu es la meilleure de toutes les femmes. Nous sommes bénis d'avoir une mère et une épouse comme toi. » Marie, il faut réaliser qu'il faut faire notre part, nous, en les aimant. Et je crois que si les femmes ressentent réellement qu'on les aime, qu'on les honore, qu'on les respecte, ils vont se donner la peine aussi d'arriver au niveau de l'exigence du plan biblique pour eux, aussi bien que les femmes aussi, d'aider leur mari à arriver à ce niveau-là quand même. Ce n'est pas facile que ce que je demande, mais je peux vous dire que les récompenses sont grandes. Les récompenses sont grandes. Et puis de toujours de garder cette attitude de prière et de voir que tout ce que nous le faisons au Seigneur pour la gloire de Dieu. Remarquez que le Seigneur est dans tout le foyer. Hier, je vous ai montré la roue. Comme quoi que si nous sommes près de Jésus, nous sommes près un de l'autre. Puis on peut accomplir toutes les exigences qui sont ici dans la Bible, pourvu qu'on le fasse avec prière. Et qu'on le fasse pour le Seigneur. Et le Seigneur va lui donner sa grâce. Car voyez-vous, tout ce que je vous ai demandé de faire envers votre mari, et vous les maris, tout ce que je vous ai demandé de faire envers votre femme, n'est pas dans le but de glorifier votre mari ou de glorifier votre femme, mais qu'ensemble, en cause que vous appliquez les principes bibliques, avec sacrifice et avec prière, avec humilité, vous allez glorifier le Seigneur. Puis les gens vont vous regarder, qu'est-ce que ça dit ici? Qu'ils soient gagnés par votre conduite. Et la société aujourd'hui est tellement dans la confusion qu'ils cherchent des foyers heureux. Ils cherchent des gens qui ne vivent pas dans le désordre de la confusion, mais qu'ils voient que ça marche, ça fonctionne, ça, la Bible. Ça fonctionne dans leur vie. Ils vont dire que lorsque vous êtes venu, lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous étiez sur le bord du divorce, tout allait mal, tout s'écroulait alentour de vous. C'était la vraie confusion, le désordre dans le foyer. Puis là, ils voient tout d'un coup que la vie a été transformée et changée complètement. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Les vieilles choses ont été passées. Vous n'êtes plus influencé par le passé, mais vous êtes influencé par l'Esprit Saint, les Saintes Écritures et le futur. Et le futur est brillant pour chaque chrétien et chaque foyer qui est assis ici ce matin. Si vous voulez dire, aujourd'hui, c'est le jour tournant de ma vie. Cette fin de semaine, c'est le jour tournant. Je ne me fais plus influencer par mon passé, mais je me laisse influencer par la parole de Dieu. Et le futur m'appartient. Hallelujah! Et on peut le faire pourvu qu'on le fait pour le Seigneur. Tout ce que je vous demande de faire, c'est dans le but de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Glorifier le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est le but de l'Église, d'ailleurs. Il y a trop de gens qui pensent que l'Église est là seulement pour entendre des sermons, pour juste chanter quelques cantiques. Mais je veux que vous sachiez que l'Église est ici pour nous aider dans tous les aspects de notre vie. Où est-ce que nous vivons? Et l'endroit la plus sérieuse, la plus importante, c'est la relation entre mari et femme. Mais si on veut avoir du succès, il va falloir travailler pour avoir du succès dans notre ménage. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions ce matin? Il nous reste 5 minutes pour des questions. On ne vous mettra pas sur la caméra si vous ne voulez pas, tu sais. D'habitude, il y a toujours des questions dans ces séminaires comme cela, mais peut-être que... Oui, si tu veux te lever, demander la question, que les gens peuvent l'entendre, s'il vous plaît. Qui est désastreuse. J'apprécie que vous apportez ça. J'espérais que cette question-là soit demandée. La question est ceci, que malgré qu'on parle de la soumission en toutes choses à notre mari, si on voit que notre mari va prendre une décision et qu'il pose une action qui peut être désastreuse pour la famille et pour la femme, est-ce qu'elle ne devra pas au moins l'avertir? Oui. Qu'est-ce que je veux dire ici? Qu'il devra toujours exister la communication et le dialogue. La femme est là pour lui aider. Et si tu te souviens, la première chose que j'ai fait en ouvrant cette étude ce matin, c'est de dire, n'oubliez pas que le premier mandat de la femme, c'est de nous aider à améliorer. Puis de nous corriger, et elle va nous corriger. Et on devrait, que si notre femme dit, je ne suis pas d'accord, ou je crois qu'on fait erreur, chérie, sur ce côté-là, on devrait s'asseoir et analyser la situation. Vous devriez l'analyser ensemble. Et le mari devra toujours porter attention à ce que la femme a à dire sur ce sujet-là. Des fois, ils ont... Mais vous dire même, selon l'évaluation, que la majorité du temps, la femme a plus souvent raison que le mari. Oui. Mais on devrait prendre son conseil. Mais quand il arrive un désaccord, quand il arrive un désaccord et qu'on voit que le mari veut absolument, il a pris sa décision, puis il croit lui dans son cœur qu'il doit maintenir sa décision, malgré que la femme est en désaccord, là, après avoir exprimé son point de vue, dans une bonne communication, pas la façon de la mauvaise douzaine, là, comme je vous ai donné l'exemplaire, mais là, elle devra, dans ce temps-là, dire, OK, si toi tu prends la décision, je veux juste t'avertir que je crois que c'est une mauvaise décision, tu ne devras pas agir de cette façon-là, mais quand même, mon mari, je vais prier pour toi, et puis je vais être obligé de t'appuyer comme au Seigneur, et je vais le faire. Et puis, je n'en parle plus du tout. Je sais que malheureusement, des fois, que la femme va être obligée de subir les conséquences de la mauvaise action de son mari, mais elle n'a pas de choix. L'autre choix, c'est de se séparer, se divorcer. Puis on ne peut pas admettre ça. On ne peut pas accepter cela. Fait qu'il va falloir vivre la situation avec notre mari, puis espérer que toute chose concourt au bien pour celui qui aime Dieu. Que le mari va voir l'erreur de son action, qu'il va changer complètement et que le Seigneur va tourner cette chose-là à sa gloire quand même. Comprenez ce que je veux dire? Mais les femmes devraient toujours être invitées avant qu'on prenne une décision de nous donner conseil. Aussi souvent que la femme, naturellement, on ne parle pas seulement des décisions sérieuses comme déménager, acheter des maisons, mais même dans notre vie, les maris, notre femme est là pour nous aider. Et puis, quand elle va nous narguer, qu'on appelle le nargage, en anglais, on dit nagging. En français, le mot n'a pas la même clarification. Mais quand même, analysez, est-ce qu'elle chicane comme cela parce qu'elle a raison? Ça a raison que ce qui m'empêche plutôt de m'excuser, de demander pardon, de m'améliorer. Pourquoi pas le faire? As-tu raison? C'est bien important. Quand que je donne des cours de préparation au mariage, il y a un questionnaire qu'il doit remplir. Et des 5 choses les plus importantes qu'on cherche dans un conjoint. Et puis, on voit toujours, les gens vont marquer « compréhension ». Je demande que ma femme me comprenne. Puis là, elle, la femme, va marquer la même chose, « compréhension ». Puis là, je leur dis ceci, ça, c'est une réponse d'une épée à 2 tranchants. Quand tu veux que ta femme te comprenne, tu as mentionné compréhension, là. Est-ce que tu veux qu'elle te comprenne parce que tu as des mauvaises habitudes et que tu n'as pas l'intention de changer? Puis qu'elle te comprenne dans tes mauvaises habitudes? Ou madame, c'est parce qu'elle, elle grimpe toujours d'un rideau pour chaque petite chose qui se passe et puis qu'elle ne veut rien comprendre de personne et puis que c'est elle qui a besoin de changer. Quel d'un deux là, qui a besoin de changer? Mais on s'aperçoit que la majorité du temps, quand le mari dit « je veux que ma femme me comprenne », ça veut dire « j'ai bien des mauvaises habitudes » puis qu'elle ne m'achète pas. Qu'elle me laisse dans mes mauvaises habitudes. Mais le Seigneur l'a placé là justement pour vous corriger de vos mauvaises habitudes. Savez-vous qu'on dit souvent « bien l'Esprit-Saint, on n'en parlera pas, l'Esprit-Saint va s'arranger avec ». Ben oui, l'Esprit-Saint s'arrange avec. C'est parce qu'il t'a envoyé justement la femme pour que tu puisses l'arranger. Ouais, c'est comme ça qu'il fonctionne. À l'Église, c'est la même chose. Souvent, on dit, bien, on va laisser l'Esprit-Saint parler à cette personne-là si on voit qu'il fait erreur. Non, non, non. L'Esprit-Saint t'a envoyé sur ton chemin pour lui aider. Tu es supposé mettre ton bras alentour et dire, tu sais que je t'aime beaucoup puis je dois te corriger. Comme j'ai apprécié qu'il y en a un hier au soir qui m'a dit qu'au lieu de dire joie, j'aurais dû dire jouet. Jouet, c'est ça? Fait que j'ai dit, merci pour m'avoir corrigé. C'est comme ça que j'apprends et j'améliore. Puis j'apprécie quand les gens viennent me corriger. Dans les premiers temps, je me fâchais un petit peu. Je dis, qui sont les autres pour me corriger? Mais j'ai réalisé que c'est parce qu'ils m'aimaient qu'ils voulaient me corriger. Et j'améliore, je m'améliore. Toute correction, toute critique, c'est seulement un point que le Seigneur met sur notre vie dans le but de s'améliorer. Une autre question. Oui, si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Commerce. Oui. Ouais. Peut-être que je peux répondre à cela. On voit ici dans Proverbe 31 que la femme a vu un champ, est allée s'en occuper, puis aussi en même temps, elle faisait un petit commerce avec le linge qu'elle faisait, les choses de ce genre-là. Je dois mentionner ici qu'il y a bien des gens, dans le cas de son mari, parce qu'il s'assoyait aux portes de la ville, il aurait dû être un échevin ou quelqu'un d'assez haut placé dans la ville dans ce temps-là. Lui-même était haut placé. Et souvent, était ceci que la femme devenait aussi en même temps la personne responsable de les biens personnels du foyer. Lui était tellement occupé à son travail qu'elle devenait aussi en même temps des executive assistants, l'assistant exécutif, où elle s'occupait de l'organisation de ses biens. Puis elle savait combien d'argent qu'il y avait à la banque, les choses de ce genre-là. Puis elle disait, écoute, il y a un terrain à vendre, peut-être plus tard, on va vouloir déménager notre maison dans ce coin-là. Qu'est-ce que tu en penses? Elle va dire, ma femme, vas-y, va l'acheter, puis elle est partie, puis elle fait toutes les transactions. Voyez-vous, elle peut le faire, ça. Comme moi, dans mon cas, parce que je suis tellement occupé que je vais parler du budget ce matin, la prochaine session, mais que moi et mon épouse, on détermine ensemble qu'est-ce qui est notre budget, mais après ça, je n'en parle plus pour le restant de l'année. Elle sait que ce qu'elle va faire, c'est elle qui va faire tout le service bancaire, qui va faire tous les arrangements et toutes les choses de ce genre-là. Comprenez-vous ce que je veux en dire? La femme peut aider ce côté-là aussi, si elle veut, mais avec consultation avec le mari.
enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.